Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie d'abord de vous retrouver au Quartz. Et puis, une fois n'est pas coutume, pour ceux qui ont eu déjà l'habitude de suivre mes conférences, j'ai choisi cette fois-ci de me concentrer vraiment sur la pièce que vous découvrirez en fin de semaine, du moins de l'approcher de manière beaucoup plus directe, afin de redécouvrir le travail d'Anne-Thérèse de Kersmaeker, qui avait fait l'objet d'une conférence il y a quelques années déjà, pas mal d'années même, de découvrir aussi celui de Radwan Mriziga, et enfin peut-être de comprendre comment et pourquoi ces deux artistes vont choisir cette œuvre musicale classique majeure, hein, les quatre saisons de Vivaldi, comme support d'une création contemporaine aujourd'hui. Alors je vais essayer de dérouler mon fil en essayant de garder le temps de notre une heure. Peut-être d'abord redire quelques mots sur Anne-Thérèse de Kersmaeker et Radwan Mriziga. Anne-Thérèse de Kersmaeker est née en 1960. Aujourd'hui, elle est considérée comme une figure majeure de la danse contemporaine belge et mondiale. Sa carrière et ses œuvres ont été reconnues par de nombreux prix et distinctions. Elle est venue à plusieurs reprises au Quartz dans les décennies passées. Et elle s'est formée à la fin des années 1970 à Bruxelles, d'abord à l'école Moudra de Maurice Béjart. Et puis ensuite, grâce à une bourse, elle est partie aux États-Unis où elle a poursuivi ses études à la Tisch School of Arts à l'Université de New York. Elle va y découvrir notamment la danse américaine et plus précisément les influences minimalistes de la danse postmoderne, la postmodern dance comme on l'appelle, dans ces années 70, et la musique de Steve Reich. Et sa signature chorégraphique, et on pourrait dire même poétique, va vraiment émaner de ces intérêts-là. Et de retour en Belgique, au début des années 80, elle va s'imposer comme une figure flamande de la danse belge contemporaine naissante. C'est à cette période, dans les années 80, très précisément en 1985, que naît Radwan Mriziga. C'est pour vous expliciter qu'ils sont de deux générations différentes. C'est un danseur et chorégraphe installé à Bruxelles, qui est originaire de Marrakech, au Maroc, où il va commencer sa formation en danse, notamment par le breakdance. Il va poursuivre cette formation ensuite en Tunisie et en France, et puis il va la parachever à Bruxelles, dans l'école Parts, qui a été créée et dirigée par Anne-Thérèse de Kersmaeker depuis 1995. Donc ils ont déjà un premier lien à cet endroit-là. En 2013, donc il y a un peu plus de 10 ans, il va entamer sa carrière de chorégraphe, d'abord en tant qu'artiste en résidence au Moussem, qui est un lieu d'art, un centre nomade d'art, et puis en Belgique, et puis plus récemment, entre 2017 et 2021, il va être artiste en résidence au Kite Theater. C'est le début pour lui de sa carrière de chorégraphe, et il va l'entamer par une première trilogie, une série de 3 pièces, dont je vais parler un peu plus longuement tout à l'heure, un premier solo qui s'intitule 55, puis une pièce de groupe titrée 3600, et enfin une pièce de groupe titrée 7. Vous avez compris qu'il y a beaucoup de chiffres dans les titres de cet artiste. Une trilogie au sein de laquelle il va explorer la relation entre chorégraphie, construction, art islamique, artisanat et architecture. C'est aussi pour lui l'occasion, ces 3 premières créations, de vraiment se poser la question de l'humain, de comment l'humain fonctionne dans ses différentes structures. Et il le pense comme un être qui a un équilibre précaire, qui cherche tout le temps de nouvelles combinaisons, on pourrait dire, entre l'intellect, le corps et l'esprit. Depuis, il y a d'autres créations qui ont vu le jour. À nouveau une trilogie qu'il va consacrer aux éléments naturels, la lune, le soleil, la terre, et qui est inspirée notamment de la culture amazigh, qui est peut-être plus connue sous le nom de culture berbère, qui est une culture ancienne présente depuis des milliers d'années dans sa région natale et qui est fascinante dans comment est-ce qu'elle a pu influencer l'histoire et l'identité d'un grand nombre de régions du bassin méditerranéen et puis du Maroc. Bien avant l'arrivée des Arabes et de la propagation de l'islam. En 2024, l'année dernière, ils vont co-signer ensemble une pièce, Il cimento dell'armonia e dell'invenzione. Il va la co-signer avec Anne Teresa de Kersmaeker. Et pour cette création, ils vont partager leur force d'écriture, leur force poétique, dans la rencontre avec cette œuvre majeure qui sont les quatre saisons de Vivaldi. C'est ce spectacle que vous verrez à la fin de la semaine. Alors pour un petit peu peut-être avoir un cheminement par rapport à ça, je vais partir d'une première intention qui va être forte pour cette création chez eux, ça va être la nature comme modèle. Alors avant cette création que vous verrez en fin de semaine, il y a eu une préfiguration à cette collaboration où la nature était déjà présente. En 2020, donc il y a 4 ans, 5 ans maintenant, ils vont co-signer un travail qui va s'appeler « Birds at Work ». Vous voyez que là encore, dans le titre, il y a un jeu entre les lettres et les chiffres. Une performance qui a été spécialement créée pour le jardin de la Maison des Arts lors d'un festival. Et dans cette première collaboration, nous pouvons retenir qu'ils ont du en commun. En tout cas, cette première création permet de définir ce en commun. Un intérêt pour la nature comme modèle, comme élément sur lequel on peut reposer la créativité, un intérêt pour les motifs géométriques, et puis aussi une approche qu'on pourrait qualifier de ritualiser des lieux et des pratiques humaines dans les lieux. Nous reviendrons sur ces questions ensuite. Alors là, vous ne voyez que quelques images fixes, mais tout de suite vous percevez quand même l'installation, on va dire. C'est un travail d'espace clair et délimité. Ici, les spectateurs sont assis autour d'un bassin décoratif en extérieur, orné d'un fond sans eau, rayé d'argent, de bleu et d'or. Et cette rencontre va par contre amener Anne Teresa de Kersmaeker à aller vers de nouveaux territoires dans les processus d'écriture et vers de nouveaux matériaux. Par exemple, on y entend la musique des Beatles, ou encore elle récite elle-même des paroles de Grand Master Flash lorsqu'il avait écrit le message en 1982. Il y a aussi une collaboration et la présence avec un rappeur belge qui s'appelle Ashley Morgan. Donc c'est une création assez étonnante au milieu des confinements, on est en 2020, qui amène à voir et à penser peut-être l'expérimentation de cette collaboration. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est que cette première, on va dire, petite forme, puisque c'est une forme assez réduite, répond aussi aux modalités de création d'Anne Teresa de Kersmaeker depuis toujours. Depuis toujours, Anne Teresa de Kersmaeker travaille de la même manière, c'est-à-dire que son processus créatif aborde d'abord la question de trouver du vocabulaire et des procédures. Donc trouver du vocabulaire gestuel, trouver des procédures d'écriture dans des petites formes, des solos ou des duos, ou des trios maximum, mais des toutes petites formes. Et puis l'année suivante, elle reprend ces matériaux-là pour les confronter à une grande forme. Un grand nombre de danseurs, une pièce musicale peut-être plus longue ou plus complexe. Et comme ça, elle va alterner des pièces qui sont plus intimistes, où elle, l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher ce matériau gestuel, chercher cette poétique, chercher de nouvelles manières d'engager l'écriture. Et puis ensuite, ça lui permet de le déployer à une échelle, on va dire, beaucoup plus grande. Là, on pourrait imaginer que ce Birds at Work, c'est une petite forme qui va permettre ensuite de devenir la matrice d'une forme plus imposante. Alors cette grande forme, on pourrait imaginer que c'est celle de 2024. Même si, vous le verrez ce week-end, elle n'est pas si grande en nombre de danseurs, puisque nous sommes sur 4 danseurs au plateau, comme les 4 saisons de Vivaldi. Mais par contre, elle est grande dans la confrontation musicale qui est ambitionnée. Puisque là, ça va être de se confronter à cette pièce emblématique. On pourrait dire que c'est une des pièces les plus emblématiques, les plus connues, les plus jouées au monde. Cette pièce qui s'intitule « Les 4 saisons » d'Antonio Vivaldi. Alors ces 4 saisons, même si je ne suis pas spécialiste de l'histoire de la musique, ce sont les 4 premiers concertos baroques d'un ensemble de 12 concertos pour violon uniquement, qui sont intitulés Il cimento dell'armonia e dell'invenzione, exactement comme le titre qu'ont choisi Anne Teresa de Kersmaeker et Radwan Mirziga. Donc qu'on pourrait traduire peut-être par la confrontation entre ou l'épreuve de l'harmonie et de l'invention. Ces concertos ont été composés en 1724, publiés en 1725. Ils ont en commun le fait qu'ils sont tous écrits pour violon soliste, cordes et basse continue. Ils ont eu une première interprétation publique, notamment à Londres et à Paris, assez rapidement, en 1728. Et Vivaldi est alors âgé de 50 ans. Alors cette œuvre a longtemps été oubliée et elle est redécouverte véritablement, enfin en tout cas dans ce que j'ai pu lire dans mes recherches, elle est redécouverte dans les années 1930, donc il y a un peu bientôt un siècle, et elle va devenir à partir de là très populaire, que ce soit au cinéma, dans les publicités, dans les sonneries de téléphone, même vous avez peut-être eu ça dans vos premières sonneries de téléphone, mais aussi dans le champ chorégraphique, puisque ces 4 saisons vont faire l'objet de compositions chorégraphiques régulières, on va dire. C'est un hymne à la nature, qui se veut un hymne plutôt universel, grandiose, mais qui a une particularité pour l'époque, c'est que cette œuvre, c'est un des plus anciens exemples, en tout cas, de musique à programme à éléments narratifs, où le compositeur, Vivaldi, a relié sa musique à des sonnets de poèmes. On dit qu'il en est l'auteur présumé. Donc en effet, on pourra en voir un ou deux tout à l'heure, l'œuvre est accompagnée de 4 sonnets attribués à Vivaldi, décrivant le déroulement des saisons, un sonnet par saison. Sur la partition, le compositeur a aussi précisé des correspondances avec les poèmes, explicitant même certains détails. Par moments, peuvent être écrits aboiements de chiens ou des noms d'oiseaux, le coucou, la tourterelle, le pinson. Et donc, il y a comme ça une impression très très forte de nature qui ressort dans la pensée poétique aussi liée à cette musique. Alors dans une interview, Anne Teresa de Kersmaeker explique pourquoi aussi cette œuvre les a intéressés. Voilà ce qu'elle dit. Nous avons bien sûr été séduits par l'idée d'une pièce musicale traitant directement du thème des 4 saisons. Les évocations de la nature y sont omniprésentes. Les 4 saisons nous interpellent dans notre relation à l'environnement, une question qui est justement au cœur de nos œuvres. L'observation de la nature oriente notre exploration chorégraphique. Quel regard portons-nous sur la nature? C'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup, qui continue de soulever de nombreuses questions. Est-ce qu'il y a encore des saisons? Comme Shakespeare l'écrit dans Le songe d'une nuit d'été, nous voyons les saisons changer. Le printemps, l'été, l'automne fécond, l'hiver chagrin. Le monde effaré ne sait plus les reconnaître. Ce qui engendre ces mots, ce sont nos débats et nos dissensions. Nous en sommes les auteurs et autrices et l'origine. Donc choisir de travailler avec les 4 saisons de Vivaldi, vous le comprenez, ce n'est pas uniquement se saisir d'une grande œuvre de l'histoire de la musique. En tout cas, ce n'est pas uniquement se confronter à un tube, on pourrait dire. Mais c'est vraiment aussi le faire résonner avec les urgences climatiques qui sont de plus en plus visibles aujourd'hui. Et ce n'est pas pour rien, si vous allez sur le site de la compagnie Rosas, notamment d'Anne Teresa de Kersmaeker, dans les visuels qui sont choisis pour cette pièce, il y a notamment celui-ci, qui est un visuel qui présente le recul. C'est une image satellite hein, qui montre le recul du glacier Columbia et tous les mouvements que cela met en œuvre sur la planète. Donc choisir aujourd'hui les quatre saisons de Vivaldi, c'est aussi parler de notre relation à l'environnement. Dans cette même interview, Radwan Mriziga ajoute aussi une autre chose. Il dit « Nous sommes face à de terribles enjeux, la biodiversité est en danger, la musique n'aborde pas explicitement cette question, mais la simplicité même de la vision vivaldienne des saisons nous permet de réfléchir à ce phénomène cyclique à partir d'éléments tels que le soleil, la chaleur, le froid, les animaux, l'eau, le vent, les plantes. Ce sont les saisons, il y en a quatre. Et si ici il n'en reste que deux, c'est qu'il y a un problème. Nous savons ce qui est en train de se passer, nous le ressentons tous et toutes. Le fait que Vivaldi soit un Méditerranéen est un autre élément qui m'a convaincue. Je suis moi-même originaire de cette région. Je l'aime et j'aime sa culture, tout ce qu'elle a produit. Son patrimoine historique est de toute beauté, mais son passé est aussi marqué par des catastrophes et des injustices. Il est important d'analyser cette musique sous le prisme de la région où elle a été composée. Analyser cette musique et y répondre évidemment par une composition chorégraphique. Et là, ils ont un en commun très fort, ça va être notre deuxième entrée, c'est la géométrie comme moyen. La géométrie, certains d'entre vous le savent peut-être déjà complètement, c'est une pierre angulaire du travail d'Anne-Thérèse de Kersmaeker. Cette géométrie est reliée à des principes mathématiques, tels que la suite de Fibonacci ou le nombre d'or, et elle se retrouve notamment très clairement visible dans le traitement spatial de la scène. Alors je vais vous mettre quelques images, notamment dans le traitement des déplacements, et des dessins qui peuvent ponctuer la scène, dessins géométriques, qui peuvent surligner pour les danseurs les enjeux d'un déplacement dans une géométrie, on va dire, contrôlée. Lorsqu'elle est interrogée sur cette question, notamment au sujet de créations comme Rain ou Drumming, voilà ce qu'elle répond dans cette utilisation mathématique. Elle nous dit « Parce que je trouve que la plus belle chose qu'apporte la danse, c'est que l'on peut intégrer ou incarner par le corps les choses les plus abstraites qui soient, notamment ces notions de proportion mathématique. J'ai toujours été fascinée par Pythagore. Le nombre d'or et la suite de Fibonacci sont à la base de l'évolution de la spirale et se retrouvent dans un grand nombre d'arts depuis l'Antiquité, mais aussi dans la structure de l'ADN et partout dans la nature. » Alors, je ne vais pas vous faire un cours de mathématiques, j'en serais bien incapable, mais on va se rappeler juste quelques principes de la suite de Fibonacci. Le principe, comme vous le voyez, c'est f petit n égale f petit n moins 1 plus f petit n moins 2. Et là, on est en train de parler en termes de surface, dans l'exemple que je vous donne. Et vous voyez que très facilement, on arrive à des dessins de spirales, et qu'on peut démultiplier ces spirales dans l'espace. Alors là, on le voit de manière mathématique, mais si on va chercher d'autres représentations de cette suite de Fibonacci, notamment dans la nature, on peut arriver à des visuels comme ceci, qui nous montrent qu'effectivement, on peut retrouver ce principe-là, en tout cas, certainement peut-être avec les imperfections que la nature sait produire au milieu des formes géométriques, mais en tout cas on les retrouve dans des formes naturelles. Mais effectivement, comme vous le voyez, puisque je l'ai choisi comme visuel pour cette conférence, on peut aussi complètement l'abstraire, et d'un seul coup vous comprenez très facilement que ces formulations-là peuvent tout à fait être dessinées au plateau et peuvent tout à fait devenir des trajets, par exemple pour les danseurs. Ils sont donc utilisés dans l'écriture géographique, on va dire, de l'espace, chez Anne-Thérèse de Kersmaeker, mais aussi très présents dans l'écriture des corps, on va dire, dans l'espace en trois dimensions. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une histoire de territoire, ça peut être aussi le plan en trois dimensions, et aussi dans l'espace interrelationnel entre les danseurs. Donc, ils sont aussi quelque part en accord avec la recherche incessante d'Art Teresa de Kersmaeker de faire dialoguer la partition musicale et la partition chorégraphique. Puisque si on a des cycles qui sont, qui peuvent être transposables dans une suite de Fibonacci, elle peut aussi les utiliser, ces cycles musicaux, dans une transposition chorégraphique. C'est d'autant plus criant, ça, lorsqu'elle travaille avec des partitions musicales cycliques et répétitives. Les motifs s'entrelacent sans cesse et se déclinent à l'infini. Alors peut-être que certains d'entre vous, si vous ne connaissez pas le travail d'Anne Teresa de Kersmaeker, ça vous paraît assez abstrait, ce que je dis. Donc je vais vous présenter deux exemples très concrets où elle va expliciter elle-même ce travail géométrique ou à partir de normes géométriques dans une transposition chorégraphique. C'est issu d'une publication qu'elle a fait il y a quelques années qui s'appelle « Carnet d'une chorégraphe » où vous avez un certain nombre de documents qui recensent un certain nombre de ressources sur les grandes pièces d'Anne Teresa de Kersmaeker. Nous allons commencer par le motif de la tresse.
So it's what you call tresse in French. Dancer two, dancer three. Yeah. In Rain we use it, but of course we have 10 dancers.
Donc dans Rain, elle utilise ce principe, mais sur 10 danseurs.
Complicated dress. Yeah. We constructed it on straight lines with 10 people. Yeah. But then what we did is this line, we shifted it and we made a radar from it. So not only this line is braided, but it also turns a line around like a clock. So you will have these tresses that you see.
Donc les danseurs font une tresse, mais dans une rotation dans l'espace.
Exactly.
C'est un motif compositionnel finalement sur le papier assez simple, mais vous voyez que dès qu'on le voit, là la vue est intéressante, cette vue en plongée, parce qu'on voit que pour chaque danseur finalement c'est voilà, une action à réaliser qui est différente de son voisin et une espèce de coordination qu'il faut trouver pour qu'il y ait à la fois cet effet de tressage et en même temps une rotation régulière de l'ensemble. Un autre exemple, ça va être le motif du diagramme de 15 qui là peut être utilisé à la surface au sol, mais vous allez voir dans l'explication, ça peut être utilisé aussi dans l'espace en trois dimensions du danseur, c'est-à-dire que ce diagramme de 15 que vous allez voir sur le tableau, vous pouvez le projeter au sol, vous pouvez le mettre en face de vous, mais vous pouvez aussi le penser comme un cube. Et là, ça devient beaucoup plus complexe. Et il va être associé à des éléments naturels.
As you see, it's also a kind of very ancient, what I called, yeah, a mathematical diagram, in which all, if you,
chaque ligne et chaque colonne fait 15 en addition.
Yeah, it's in a lot of cultures these diagrams were used. Here in this case, they refer to the different stages, as I mentioned them in the five transformation, being one being water. Nine being fire.
Donc elle attribue à chaque chiffre
four being wind or wood,
des éléments naturels, le feu, l'eau, etc.
Three called also thunder. On the opposite, you have the two metal.
Ce qui peut donner des indications notamment de dynamique ou d'énergie.
Lake, heaven and lake. Evelyn, this is Lake. And these three, 2, 5, and 8, are the three transitional Earth phases.
Donc la Terre, pour 2, 5 et 8.
They call it mountain. The middle, 5, is always empty. So there is no trigram referring to the middle. This is a pattern, a ninefold pattern of different stages of the combinations of how energy manifests itself. I use it in different ways. I use it as a geometrical pattern that organizes the floor. Imagine that
qui peut être une organisation du sol.
This is the stage, and I will divide the stage in 9 parts. I will say, for example, nobody ever goes in the 5.
Donc, par exemple, personne ne se met dans l'espace du 5.
Personal number. So, for example, Cynthia, she is a 4. She will start from this corner, and she will move through the diagram from 4 to 5 to 6 to 7 to 8 to 9 to 1.
Donc, so it's trajectories.
It's trajectories. Yeah.
Un travail de trajet.
Two-dimensionally.
Yes, for example, in Zeitung, Tali made a phrase. Imagine you have that phrase on the floor, and she made a phrase where she moved through those.
Mais ça peut être individuel. Ça peut être plein de diagrammes qui sont placés sur la scène.
From a 1 to a 8 to a 7 to a 6, they will be like this. But I also can make it a little bit like in the Laban cube. I decided to make it to give it
a cube.
A cube, a 3-dimension. It's not really a cube.
Ce n'est pas réellement un cube, mais c'est une utilisation en 3 dimensions.
Le
bas, le milieu et le haut.
The one is down, energy. The two, I go diagonally up. The three is to the side. The four is diagonally back. Five is always empty, nothing. 6 is diagonally down, 7 is on that level, 8 is on down there, and 9 is up.
Voilà, ça vous donne quelques principes, et vous voyez que ça devient infini, en fait, les règles que l'on peut imaginer à partir de ces principes mathématiques, et comment on peut les associer à des éléments naturels. Ainsi, ces principes permettent de développer ce que l'on pourrait nommer harmonie et invention, comme le dirait Vivaldi. Ce mot harmonie, c'est un mot que d'ailleurs Anne-Thérèse de Kersmaeker a utilisé plusieurs fois dans des interviews, ce qui n'est pas un mot souvent utilisé par les chorégraphes de la danse contemporaine. Elle dit « Je suis également très attachée à la beauté et à l'harmonie, l'harmonie au sens de ce qui marche, de ce qui fonctionne, et non en tant que valeur esthétique ou morale. » Et au sujet de cette création sur les 4 saisons de Vivaldi, elle fait aussi remarquer une autre chose, qui est vraiment comment est-ce que Vivaldi interprétait ces 4 saisons. Elle nous dit, si Vivaldi était un homme de la ville et qu'il observait effectivement la nature comme un spectateur de loin, la façon dont il la convoque dans cette œuvre est fascinante. Que nous dit-il à propos des 4 saisons? Quelle est son intention? Prenons par exemple les diverses évocations musicales du vent. Les tempêtes sont nombreuses dans les 4 saisons. On est loin ici de la représentation d'une nature sereine de l'époque romantique. Alors là, je me suis dit, rappelons-nous quelles sont les représentations de la nature de l'époque romantique, quand même. Effectivement, les représentations de nature de l'époque romantique, c'est plutôt très serein, très posé. On a l'impression que voilà, ce sont des paysages qui s'offrent à voir et qui sont très peu tumultueux, même lorsqu'ils veulent paraître un peu angoissants. Donc elle dit, on est loin ici de la représentation d'une nature sereine de l'époque romantique. Vivaldi nous fait entendre les turbulences d'une nature violente. Sa musique déborde littéralement d'une énergie virevoltante. L'eau, le vent, le feu, tous les éléments sont présents. La musique incarne la nature comme si Vivaldi ressentait au plus profond de lui qu'il en faisait partie. Je ne vous apprends rien en vous disant avoir une obsession pour les cercles, les spirales, les ellipses et les tourbillons. l'été et l'hiver en particulier, nous invitent à tournoyer. Dans la nature, tout tourne, le vent, les océans, les étoiles, le système cosmique. C'est cyclique. Tout s'ouvre et se ferme. Les quatre saisons incarnent vraiment cette vision. On va faire une toute petite écoute en lien avec le poème de l'hiver sur ces quatre saisons où effectivement, sur l'hiver, on n'est pas sur un hiver où les flocons de neige tombent dans un paysage silencieux. L'hiver chez Vivaldi est plus fort que ça. Je vais m'arrêter surtout sur, on va prendre que le premier allegro. Je vais vous faire écouter la petite séquence de ce premier allegro. Dans les neiges argentées, tremblant et gelé par le souffle tranchant du vent glacé, on court et l'on frappe ses pieds contre le sol en claquant des dents à cause du gel. Voici la transposition musicale de ce moment. Alors d'abord, on a effectivement le décor de neige, le froid. Ce sont les cordes qui progressivement nous donnent cette impression. Elles commencent plutôt graves et puis elles vont dans les aigus. Et puis soudain, le vent commence à se lever. Comme si c'était la progression du froid. Effectivement, on peut sentir des tourbillons. Des bourrasques. Comme si le son venait et repartait. Et puis possiblement des claquements de dents. Cette idée du vent qui part et qui revient, du cycle aussi, de ces bourrasques. Et puis de moments plus calmes qui permettent à nouveau d'être entrecoupés par des brusques bourrasques. Comme souvent dans cette pièce, des ritournelles qui reviennent régulièrement.